Vous écoutez Radion, il est 21h passé de quelques secondes. Voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une émission que j'ai enregistrée le 24 septembre dernier au château du Clos de Vougeot, alors que se tenait la 9e édition de Livre en Vigne, première fête du livre au cœur du vignoble. Et je suis très heureux de retrouver, parce que ce n'est pas son premier passage dans l'émission littéraire de Radion, je suis particulièrement heureux de retrouver Violette Cabessos. Bonsoir Violette Cabessos.
Bonsoir cher Yannick.
Alors Violette, on s'était rencontrés il y a quelques années pour La Promesse de l'Ange. On avait, je crois, surtout parlé de La Parole perdue. On s'était retrouvés l'an dernier pour Le Teinturier de la Lune. Nous avions enregistré dans un petit jardin. Nous étions à Tonnerre.
Oui.
Et puis, comme je l'ai dit en ce début d'émission, en cette année 2016 où tu fais paraître un nouveau roman dont on va parler bien sûr ce soir, nous sommes tout près du Benaton ici, pas très loin des pressoirs du château du Clos de Vougeot. Alors Violette Cabessos,
oui,
s'il vous plaît. Violette, tu es l'auteur de plusieurs thrillers historiques à succès qui ont tous été publiés chez Albin Michel. Le tout dernier a pour titre « Portrait de groupe avec parapluie ». Et en exergue, il y a une citation d'Apollinaire qui est absolument remarquable et qui mérite sans doute réflexion. « Avant tout, les artistes sont des hommes qui veulent devenir inhumains ». Alors, Violette, es-tu toi aussi, à la manière d'Apollinaire, sur le point de devenir inhumaine ?
Inhumaine ? Malheureusement, non. Trop humaine. Et artiste, je me qualifierais pas ainsi, ça serait un peu prétentieux. Mais cette phrase m'a profondément marquée dans un ouvrage qui s'appelle « Les peintres cubistes », parce que Guillaume Apollinaire, on l'oublie, mais était donc ce poète qu'on connaît, mais était surtout un grand connaisseur d'art plastique et de peinture en particulier. Très ami avec Picasso, avec Derain, avec Vlamin, qu'il a participé à toute cette aventure de l'avant-garde et de la bohème artistique du début du XXe siècle. Et il était un mentor même pour tous ces gens-là. Et il a été l'un des premiers à parler du cubisme. Il a vécu la grande aventure du cubisme des Demoiselles d'Avignon avec Picasso. Et donc, il a consacré tout un ouvrage aux cubistes. Et donc, j'ai trouvé cette citation dans cet ouvrage qui s'appelle « Les peintres cubistes » et qui est sorti, je crois, en 1913.
Alors, parlons de l'intrigue.
Oui.
Plaçons un peu le décor. Déroulons un tout petit peu l'intrigue.
Pas trop, parce que c'est un roman policier.
Absolument. Je rappelle le titre, « Portrait de groupe avec parapluie », c'est chez Albin Michel sous la plume de Violette Cabessos. Alors, il y a une héroïne, une vieille dame sympathique de 70 ans qui s'appelle Marthe Botorel, ancienne droguiste et qui a deux copines. Hein, donc il y a la fameuse Jacotte dont nous reparlerons. Et puis, la copine russe...
Descendante de russe blanc, chauffeur de taxi, qui s'appelle Anastasia Viktorovna Chervinskaya, alias Nastia.
Alors, cette Marthe habite à Paris, elle est donc à la retraite, et puis, elle s'est découvert avec l'âge une passion pour l'art, pour la peinture. Oui. Hein, elle se met au dessin, elle peint, elle prend
C'est une autodidacte, hein, c'est une complète autodidacte. Elle vient d'un milieu très populaire, donc commerçante. Elle habite dans un quartier très populaire qui est le 13e arrondissement de Paris, la Butte aux Cailles. Et puis, à la retraite, elle découvre l'université Interâge de la Sorbonne, qui existe réellement, qui dispense des cours. Et là, elle tombe totalement en pamoison devant la peinture. Et donc, elle découvre, elle qui n'est quasiment jamais sortie de son 13e arrondissement, elle découvre les grands musées parisiens, elle prend des cours de dessin, elle va au pu chercher des vieilles croûtes pour les restaurer. Enfin, c'est vraiment sa passion.
Et puis, elle a une passion pour un animal de compagnie qui joue un rôle important.
Alors, c'est Feu, son mari, puisqu'elle est veuve, qui lui avait offert une petite boule de poils s'appelant Arthur et qui n'est autre qu'un bulldog anglais. Sauf que là, ce bulldog anglais a 10 ans, ce qui est très très vieux pour un bulldog. Et bon, c'est un bulldog, hein, c'est-à-dire il bave beaucoup, on peut même dire Il rote, il pète, voilà, c'est un bulldog anglais, mais qui est très très intelligent et qui va jouer un grand rôle dans le roman.
Alors, il y a effectivement donc les deux autres copines.
Ce sont ses amies d'enfance. Elles se connaissent depuis l'école communale. Ce sont des amies d'enfance. Oui.
Donc, il y a Jacotte. Alors, Jacotte, elle est ouvrière, militante,
oui.
Une sorte de
gauchiste.
Oui, c'est ça, communiste.
Communiste,
presque, hein.
Oui.
L'ami du peuple et l'humanité quand elle tenait son café.
Oui, parce que, bon, savoir que le 13e a une très très longue tradition ouvrière, hein. La commune de Paris, etc. Et Jacotte est vraiment descendante de ça et elle a tenu, oui, pendant 40 ans, un café sur la butte aux Cailles, rue des 5 Diamants, avec sa copine Nastia. Et Jacotte a quand même une particularité dont il faut que je parle, elle ne s'exprime qu'en argot titi parisien.
Alors, on aura sans doute l'occasion de t'offrir des temps de lecture pour rendre compte de l'argot de Jacotte. Comment as-tu fait? Tu en connais de ces Parisiennes et de ces Parisiens qui parlent comme
oui,
ça?
Oui, j'en ai connu une. Quand je suis arrivée à Paris, il y avait justement dans un bar une barmette qui s'appelait Roberte. Et Roberte ne s'exprimait qu'ainsi. C'était très drôle. Puis bon, ben, y a tous les films, les Tontons Flingueurs, Touche pas au Grisby. J'ai toujours adoré les dialogues d'Audiard. Et puis, j'ai travaillé pour découvrir cet argot qui me fait beaucoup rire. J'espère que les lecteurs riront aussi.
Alors, Nastia, son appartement est une sorte de musée un petit peu de la Russie blanche,
de la Russie tsariste. Hein. Oui, alors Nastia, c'est un peu l'intellectuelle du trio, hein, bien qu'elle aussi ait travaillé dans un bar toute sa vie, mais elle lit. Et effectivement, elle est la dernière de la lignée de Russes blancs, comme il y en avait beaucoup à l'époque dans ce quartier, hein, au début du XXe siècle. Et donc, ben oui, sa maison, qu'on appelle une datcha, est une sorte de musée, oui, à la gloire de la Russie blanche, des Romanov. Et donc, elle est très, très attachée à tous ces objets, qui sont quand même dans un sacré désordre. Hein. Mais voilà, elle vit comme on pouvait vivre dans les années 20.
Et puis, elle a tout de même des facilités pour les nouvelles technologies.
Ah,
c'est
oui.
Important, quand même.
Elle a une passion, c'est l'informatique et notamment Internet. Et heureusement, si je puis dire, dans le cadre du roman.
Alors, on va peut-être, dans quelques minutes, parler du premier meurtre.
Oui, parce que donc c'est un roman policier. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Par exemple, je suis désolée, chers auditeurs, mais je ne peux pas vous expliquer le titre. Je peux absolument pas. Mais je peux vous raconter un petit peu l'histoire. Parce qu'en fait, c'est un roman à double voix. Qu'un X. Donc nous suivons les péripéties de Marthe Botorel, de son chien Arthur et de ses deux amis. Et parallèlement, nous sommes dans le fort intérieur de l'assassin. En fait, l'originalité, enfin j'espère, c'est qu'on sait dès le départ qui est l'assassin. On ne sait juste pas pourquoi il commet ces meurtres. Et ça, on le saura évidemment à la fin.
En tout cas, c'est une ahurissante sanguine, hein, comme le dit le service de presse, qui nous plonge, comme tu l'as dit, Violette, dans le fort intérieur d'un psychopathe dangereux, tueur en série, dangereux.
Ah oui, il est très dangereux, j'espère qu'il fait peur.
S'il le pouvait, il ferait même exploser le Louvre.
Ah oui, parce qu'alors, il a une dent, lui, contre la peinture et contre certains peintres. Et oui. Et c'est un paranoïaque de combat.
En tout cas, on retrouve nos trois mamies passablement déjantées dans une poignée de minutes et puis on retrouve notre truculente Violette Cabezos juste après la pause musicale que nous vous proposons sur Radion. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je rappelle qu'il s'agit d'une émission que nous avons enregistrée lors de la 9e édition de Livre en Vigne. C'était le 24 septembre dernier en Côte d'Or au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. À tout de suite.
Y a des jours, y a des souvenirs, y a des nuits. cherche pas ta peine. Le soir descend, revois des nuages. La mer est dans mon corps, on m'alloue encore. La terre est bien trop loin, fais tout ça.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Portrait de groupe avec parapluie, c'est le titre du dernier roman policier de notre invitée, Violette Cabezos. Alors, on a parlé de Marthe, Marthe qui s'adonne à la peinture et qui...
Et qui, donc, participe un dimanche de septembre à quelque chose qui existe réellement. Ça s'appelle le concours de chevalet de la ville de Provins. Provins, c'est en Seine-et-Marne, c'est une ville médiévale très très belle. Donc c'est un concours de peintres amateurs. Voilà, on se réunit et le but étant de peindre une partie de la ville, une tour médiévale, une salle en ogive. Puis ensuite, voilà, on distribue les prix. Et puis ce jour-là, Marthe, elle n'est pas du tout dans son assiette. Hein. Alors, elle se balade en Provins avec son chevalet sous le bras, c'est très lourd, il fait très beau, elle a oublié ses lunettes de soleil, elle a des problèmes avec certains de ses animaux qui est arrivé un accident. Bref, elle déprime et sur les conseils d'un bistrot, elle se dit, mais plutôt que peindre au grand air, je vais aller peindre dans les catacombes de la ville de Provins. Au moins là, je serai tranquille et je n'aurai pas le soleil dans les yeux. Sauf que quand elle arrive dans les catacombes, eh bien, elle tombe sur une curieuse scène de crime. Voilà, le premier crime, et donc c'est une jeune fille morte, mais pas n'importe comment, et surtout, il s'avère qu'elle est peinte.
Alors voilà, c'est le point de départ, et effectivement, il y a une sorte de mise en scène.
Il y a une mise en scène, oui.
Qui est un clin d'œil au monde de l'art, mais il ne faut pas trop en dire.
Il ne faut pas le dire trop.
Alors, en revanche... Comme tous tes romans, il y a toujours un vrai travail de recherche. Tu te qualifies toi-même comme un rat de bibliothèque. Il y a toujours beaucoup d'érudition, beaucoup d'anecdotes. Et grâce à toi, Violette, on pénètre dans ces années 1900-1910, du Paris d'abord de Montmartre, l'épopée, si je peux me permettre, du bateau Lavoir.
Ah oui, tout à fait.
Et ensuite, il y a eu l'épisode de la ruche, ce déplacement des artistes vers le quartier de Montparnasse.
Vers Montparnasse, oui.
Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qu'était Montmartre... dans les années 1900, c'est-à-dire finalement un beau petit village.
Ah, c'était la campagne. C'était totalement la campagne. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Il y avait plein de petits métiers qui n'existent plus. Et donc, Montmartre, à l'époque, était peuplé de ce qu'on appelait les rapins, hein, c'est-à-dire les peintres. Pourquoi ? Parce que là, ils pouvaient avoir des masures pas chères. Ils n'avaient pas d'argent, évidemment. Et puis, il y avait les impressionnistes, déjà, qui avaient vécu là. Et donc, les Picasso et autres ont pris la suite. Et dans ce qui est devenu très célèbre, le bateau Lavoir, qui était en fait une ancienne manufacture de pianos. Et donc, ils vivaient là dans des conditions quand même assez terribles. C'était tout à fait insalubre. Mais ils ont quand même vécu la grande aventure de l'art moderne.
Alors, ce bateau Lavoir, Max Jacob l'appelait le laboratoire de l'art. Tu l'as connu, toi, ce bateau Lavoir, la jeunesse parisienne?
Avant qu'il ne brûle, non, parce que déjà je ne suis pas parisienne à la base, ou plutôt on va dire comme beaucoup de Parisiens, je viens de province. Et puis, non, parce qu'il a brûlé en 1970. Donc j'étais un peu petite. Malheureusement, non, j'ai pas connu. Et oui, il a fait l'objet d'un terrible incendie. Et aujourd'hui, il n'en reste malheureusement que la façade. Et
effectivement, tu le rappelles, donc ce bateau Lavoir prend feu en 1970. Et effectivement, le bateau Lavoir venait d'être classé monument historique par André Malraux. Alors, bien sûr, ce Montmartre, c'est la rue Lepic, c'est la rue Norvin, c'est la rue des Saules, c'est la place du Tertre, c'est la rue
Saint-Vincent. C'est le lapin agile.
C'est le lapin agile.
Il existe toujours, le lapin agile.
Ce village de Montmartre est magnifique parce que finalement, il y a des fermes, il y a des moulins, il y a des baraques en planches ou en torchis. C'est un vrai petit village.
C'est un vrai petit village de province.
D'ours. D'ailleurs, Robert Sabatier, dans certains de ses romans, décrit ce Montmartre très, très rural, très, très campagnard. Bien sûr, il y a le lapin agile. Alors, j'aimerais que tu nous rappelles ce qu'est le lapin agile.
Alors, le lapin agile, c'est un cabaret dans lequel Nougaro a débuté, Gainsbourg, plein comme ça de personnalités. À l'époque, c'était un bar tenu par Frédé et dans lequel se réunissaient tous les Picasso, les Modigliani, tous ces gens-là. D'ailleurs, il y a un tableau de Picasso célèbre qui s'appelle le lapin agile.
Alors, dans ce village de Montmartre, bien sûr, on y croise, comme tu l'as dit, tous ces rapins, Utrillo, Picasso, Van Dongen, Braque.
Derain, Vlaminck, enfin, ils étaient tous là, ils se connaissaient tous. Je dis pas qu'ils s'aimaient tous bien, il y avait beaucoup de concurrence, de rivalité, mais voilà, ils vivaient là la grande aventure de l'avant-garde, de l'art moderne. Ils inventent à Montmartre l'art moderne.
Alors, l'art moderne, effectivement, est illustré à Montmartre. Il y a aussi, dans ce quartier de Montmartre, pas très loin de la place du Tertre, la fameuse folie Sandrin, dont il est question dans le roman, qui est la clinique du docteur Blanche.
L'une des premières cliniques docteur Blanche avant qu'il aille dans le 16e. Le célèbre aliéniste docteur Blanche. À l'époque, on disait aliéniste, on disait pas psychiatre, qui a soigné Nerval, alors qu'il devenait fou parce qu'il atteint de syphilis. Maupassant, entre autres. Ah oui, il y avait plein de gens célèbres dans le coin.
Mais est-ce que Nerval se promenait véritablement...
Ah, c'est la légende.
Avec
un homard en laisse. Oui, c'est la légende et il est mort pendu à un réverbère.
Alors j'aime beaucoup, tu parles de la meringue blanche du Sacré-Cœur.
Ah oui, parce qu'alors à l'époque, le Sacré-Cœur, c'était tout nouveau, voire même était en construction. Et... ce n'est que mon avis, on s'en fiche, mais je trouve pas ça très joli. Ça me fait vraiment penser à une meringue.
En tout cas, si le Sacré-Cœur est une meringue blanche, il y a une maison rose qui, elle aussi, se trouve pas très loin du cabaret.
Du lapin agile. Et alors ça, vraiment, la maison rose, c'est Utrillo. C'est, de toute façon, Montmartre, ce sont les tableaux d'Utrillo et la maison rose en particulier. Et elle existe toujours, bien sûr. Et quand on la voit, vraiment, on a l'impression, d'être dans un tableau d'Utrillo.
Alors, Utrillo... Maurice Utrillo, c'est le fils de
Suzanne Valadon.
Suzanne Valadon.
Modèle, alors qu'il a commencé comme modèle pour les impressionnistes. Il les a tous connus, voire intimement même.
Trapéziste de cirque.
Elle est trapéziste de cirque. Et puis elle a eu un accident. Elle ne pouvait plus exercer son métier. Donc elle est devenue modèle. Elle a posé pour tous, Monet, Degas. Et puis après, elle-même...
Elle a couché aussi avec beaucoup de monde.
Mais à l'époque, les modèles, ça se passait comme ça. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle est aussi devenue peintre, et de talent en plus. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir des tableaux de Suzanne Valadon, mais grand talent, grand talent. Et donc, elle a eu voilà, un fils illégitime, un enfant naturel, comme on dit à l'époque, c'était aussi très courant, Maurice Utriot, avec qui elle a eu beaucoup de problèmes.
Alors, effectivement, dans ton roman, Portrait de groupe avec parapluie, Violette, tu dis que Maurice Utriot, le fils de Suzanne Valadon, a été pour elle une véritable épine dans le pied.
Ah oui, parce que Momo, dès très jeune, a eu un problème d'alcoolisme, et a été interné très, très souvent. Et c'est comme ça qu'en fait, il est devenu peintre, parce que pour le calmer, c'était quand même un fou furieux, elle l'enfermait avec des pinceaux, des tubes, elle le forçait à peindre.
Et là aussi, il y a une anecdote assez intéressante concernant Modigliani. Alors, on y reviendra. Modigliani, à un moment, est enfermé dans une cave avec une bouteille de cognac par un tenancier de bar.
Par un marchand d'art, parce que Modigliani aussi, personnalité complexe et addictive, on va dire, et donc il l'enferme toute la journée avec sa bonne pour modèle et une bouteille de cognac, et peint, vas-y, peint, et à la fin de la journée, il récupère la toile.
Violette, si tu le veux bien, j'espère que tout se passe bien pour toi.
Très bien.
Est-ce que tu es d'accord que nous marquions un nouveau temps de pause musicale ?
Oui.
Ah ben heureusement que tu dis oui, sinon je serais bien embarrassé. Je rappelle que vous êtes à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. C'est chaque mercredi à 21h sur Radion, et ce soir nous avons le plaisir de nous promener dans ce Paris des années 1910-1920 aux côtés des artistes, mais surtout avec un excellent guide dans la compagnie de Violette Cabezos, qui signe Portrait de groupe avec parapluie aux éditions Albin Michel. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Je ne tiens pas debout.
Portrait de groupe avec parapluie, c'est le titre du dernier roman policier de Violette Cabezos, qui est ce soir devant le micro de votre émission littéraire, avec donc un étrange et très dangereux tueur qui sévit à Paris, qui a des comptes à régler avec toute une dynastie d'artistes.
Alors en fait, ça on peut le dire, je pense, sans déflorer, il se trouve que les grands-parents du tueur, enfin son grand-père en particulier, était peintre au moment où vivait, voilà, Picasso, Modigliani et toutes ces personnes dont je viens de parler. Alors là, par contre, je peux pas en dire plus, mais voilà pourquoi nous sommes avec tous ces peintres.
Et puis alors, je suis particulièrement heureux aussi de le dire à nos auditrices et auditeurs, c'est qu'il y a quelques clins d'œil à notre département de Lyon dans ce roman.
Oui, mon département chéri. Oui, oui, il y a des clins d'œil. Eh bien, par exemple, mon assassin est né dans Lyon. Son père et vigneron, voilà, Chablis, Côte d'Auxerre et tous les vins que nous aimons dans Lyon. Voilà, petit clin d'œil pour vous, chers auditeurs.
Et puis, on a le droit de le dire sans préciser pourquoi, que Ancy-le-Franc...
Ah oui, mais il ne faut pas dire pourquoi.
On ne dit pas pourquoi, mais Ancy-le-Franc apparaît dans le roman.
Tout à fait.
Donc, on est dans le pays tonnerrois avec ce très beau château, mais ce n'est pas tellement le château qui intéresse.
Non, mais là, on ne peut pas en dire plus.
Nous n'en disons pas plus. En tout cas, aux trousses de ce terrible tueur, donc trois vieilles dames, nos trois mamies, la merveilleuse Marthe, qui est absolument exceptionnelle de gentillesse, d'intelligence aussi.
Ah oui, oui. Et alors, vous savez, je ne sais pas si tu sais, Yannick, le plus drôle, c'est que Marthe, je l'ai rencontrée.
Allons donc.
Je l'avais imaginée telle qu'elle est dans le roman, c'est-à-dire petite, un peu gironde, avec sa jupe grise qui la boudine, son éternel chemisier blanc, ses lunettes, ses beaux yeux bleus. Et un jour, à Paris, dans l'autobus, elle était face à moi. Telle que, avec un plastique sur la tête parce qu'il pleuvait, et à la main, un sac plastique contenant des livres d'art. C'était elle.
Mais pas de bulldog. Pas de bulldog, Arthur. Alors, nous avons parlé de ce village de Montmartre d'avant la Première Guerre mondiale.
Avant la Première Guerre mondiale, parce qu'en fait, il y a eu un déplacement géographique de Montmartre vers Montparnasse à partir du 1910, déjà grâce au métro, parce que la ligne nord-sud a été inaugurée, donc ça facilite les déplacements. Et puis, parce qu'on a commencé à Montmartre à faire de grands travaux, à percer l'avenue Junot, et donc, pour les peintres, la vie devenait plus difficile et ils se sont donc réfugiés dans un autre village, parce que c'était aussi un village rural, il y avait des fermes, il y avait des laiteries, il y avait des vacheries, et ce village, c'est Montparnasse.
Alors Montparnasse, il y a eu autant. Montmartre disposait du bateau Lavoir, ce fameux laboratoire de l'art, comme l'appelait Max Jacob. Autant Montparnasse disposait de ce qu'on appelait la ruche, qui était de forme circulaire.
Alors, qui existe toujours. Et autant le bateau Lavoir, malheureusement, c'est terminé, mais la ruche existe toujours. Vous pouvez y aller. Elle se visite lors des journées du patrimoine, par exemple. Et elle abrite toujours des peintres. Et c'est magnifique parce que c'est de forme circulaire. Moi, ça m'évoque, soit une ruche ou un camembert. C'est assez joli. Et la ruche, oui, il les a tous abrités. Modigliani, Soutine, Chagall. Et elles portent toujours leurs souvenirs. Alors, il y a aussi d'autres lieux qui, malheureusement, n'existent plus, comme la cité Falguière, par exemple, et qui a été rasée quand on a construit la grande tour Montparnasse et qu'on a aménagé tout le quartier. Malheureusement, beaucoup d'ateliers d'artistes ont été détruits à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 1960-1970.
Grâce à toi, Violette, j'ai appris que la ruche, donc à Montparnasse, avait été construite avec les débris de l'exposition universelle de 1900.
Oui, comme beaucoup d'endroits à Montparnasse. Par exemple, rue Campagne Première aussi, il y a de très très beaux ateliers qu'on ne voit pas de la rue, mais qui ont été aussi construits avec... on jetait rien, tout se transformait, surtout pour faire des ateliers d'artistes bon marché. Donc on prenait des débris, on récupérait, on reconstruisait avec.
Il est important aussi de signaler que ton roman replace dans l'ordre chronologique les vagues successives du courant artistique. Alors il y a l'impressionnisme, ensuite il y a le fauvisme, le fauvisme sera détrôné par
le cubisme,
et ainsi de suite.
Et ainsi de suite, après il y a ce qu'on peut appeler l'expressionnisme, et en fait tous ces mouvements se retrouvent dans une expression qui a été inventée plus tard, mais et qu'on appelle École de Paris, parce que voilà, tous ces gens-là ne peignaient pas de la même façon, donc on pouvait pas trop les réunir sous un courant artistique, mais par le lieu, parce que tous ces gens-là étaient à Paris. À l'époque, Paris était le centre du monde, et en particulier du monde artistique, et donc on les a tous réunis sous le vocable École de Paris.
Alors Matisse, lui, est un illustrateur du fauvisme.
Du fauvisme, et puis il a commencé fauve, c'était le maître, hein, le chef de file du fauvisme. Puis bon, Matisse est l'un des plus grands, et donc voilà, on apprend des choses sur sa rivalité avec Picasso, on apprend comment étaient peints les Demoiselles d'Avignon, on apprend des choses sur Soutine, parce qu'en fait à Montparnasse, la nouveauté par rapport à Montmartre, c'est qu'il y avait des gens qui venaient, bon à Montmartre aussi, mais là beaucoup plus du monde entier, et notamment beaucoup de Russie, et eux sont arrivés donc un peu plus tard, et donc sont venus, se sont rejoints directement à Montparnasse.
Les fauves ont osé, tu l'écris, Violette, les visages verts,
oui.
Les arbres rouges,
oui.
Ou les cernes jaunes.
Oui.
Et tu vas
alors ça n'a
plus
pas
loin.
Plu du tout hein, à l'époque.
Tu parles même de l'arme absolue des fauves, c'est-à-dire la couleur pure.
Oui, ils ont été les premiers. Alors il y a eu Cézanne hein, quand même qui les a beaucoup influencés, Van Gogh bien sûr, mais ils ont été en fait les premiers à utiliser, oui, la couleur sans mélange telle que sortie des tubes et à faire exploser ces couleurs, à simplifier le trait. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup les fauves. Ça me touche beaucoup.
En tout cas, on va, avant d'évoquer Picasso, parce que j'ai appris beaucoup de choses plutôt déplaisantes et décevantes. Enfin, on savait que Picasso n'était pas un homme très
commode,
très généreux. Enfin,
non.
Quelqu'un, j'allais dire, dont on garde une impression un peu...
Quel génie tout de même.
Mais
en fait, ce qui m'a intéressé dans ce livre aussi, c'est de décrire les artistes, je retombe sur Apollinaire, de décrire les artistes tels qu'ils étaient en tant qu'humains. Et souvent, ben voilà, il vaut mieux s'en tenir à l'artiste, parce qu'en tant qu'être humain, c'est pas évident.
On parle du catalan juste après la pause musicale. Je rappelle que vous êtes à bord de Wagon Livre avec ce soir notre invitée Violette Cabessos, une émission enregistrée le 24 septembre dernier lors de la 9e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot.
Comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il vient me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas ne fait que nous rabâcher sa jeunesse, qu'il était beau et riche, qu'il attirait toutes les gonzesses, que dans son temps les jeunes avaient plus de politesse, mais qu'aujourd'hui pour une cigarette il t'agresse. Au fond de la salle j'entends qu'une bagarre éclate, je cours les séparer avec ma fameuse patte. Je vois que le premier a sous la manche quelques cartes, le deuxième le rate et me fout une patate. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Oui, ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Comme tous les midis en sortant de son petit bureau, il desserre sa cravate et il me parle de son boulot. Il décrit son patron avec des tas de noms d'oiseaux. Il aimerait bien se taper sa secrétaire Véro. Et là y'a cette cougar au décolleté ravageur, jupe léopard, maquillage de film d'horreur. Elle me raconte ses ébats sexuels sans pudeur avec ce petit jeune qui est majeur depuis 24 heures. Et là d'un coup un homme monte sur la table, avec son accent bizarre il nous traite de macaque. Il nous dit qu'à l'époque il était formidable. Puis il tombe dans mes bras en pleurant qu'il est fort. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Oui, ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Et moi, mes problèmes à moi, qui s'intéressent. Intéresse. Oui et moi, mes états d'âme et mes tourments. Ici personne ne veut les entendre, c'est normal, je ne reste que le barman. Saoulé. Ils m'ont tous saoulé.
Jeffrey.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Toujours en compagnie de notre invitée, Violette Cabezos, pour son dernier roman policier aux éditions Albin Michel, roman policier qui a pour titre « Portrait de groupe avec parapluie ». Violette, avant la pause musicale, nous avions commencé à évoquer la vie de Picasso. Mm-hmm. Et d'ailleurs, dans ton roman, j'ai noté cette phrase que je partage avec nos auditrices et auditeurs. « La vie de ce génie ne fut qu'une suite de lâchetés et de forfaitures plus grandes les unes que les autres ». Voilà un gros pavé dans la mare, mais on le savait pas
déjà.
On
le savait, disons qu'on connaît ses relations avec toutes ces femmes successives. On sait tous les problèmes de succession qu'il y a eu à sa mort. On sait que bon, il a pas été très très gentil avec sa première compagne, Fernande Olivier. Mais je dévoile d'autres choses dans le livre, comme par exemple ce qu'on sait moins. C'est que Fernande étant stérile, ils sont allés adopter rue Caulaincourt une petite fille. Et puis quelques mois plus tard, Picasso décrétant que finalement non, un enfant c'était dur à supporter. Le fidèle ami Max Jacob est allé rapporter, et j'emploie ce mot à dessein, la petite fille à l'orphelinat, comme un vulgaire paquet.
Alors, Picasso, bien sûr, c'est aussi ce génie, hein,
mais
c'est Demoiselle d'Avignon.
Mais oui.
D'ailleurs, dans le roman.
Et puis, ce sont aussi des drames qui débouchent sur des œuvres d'art fantastiques. Par exemple, une anecdote que je cite dans le livre. Picasso est arrivé à Paris, en fait, pour l'exposition universelle de 1900, avec un grand ami espagnol, qui s'appelait Carlos Casagemas. Et Carlos Casagemas est tombé amoureux d'une femme, on va dire, de petite vertu, une danseuse Moulin Rouge, qui l'a fait devenir chèvre, pardon de l'expression, et donc il s'est suicidé. Et après avoir essayé de la tuer, il a fini par retourner le revolver contre lui. Pablo n'était pas là à l'époque, il était en Espagne, mais il en a conçu une grande culpabilité de n'avoir pas réussi à sauver son ami. Et la légende dit que c'est à cause ou grâce à ce suicide qu'il a inauguré sa fameuse période bleue, peuplée de morts, de prostituées, de choses tristes. C'est suite à la mort de son ami.
Alors c'est vrai aussi que dans ce roman, on comprend ce qu'est la bohème, ce qu'est la dèche, l'alcoolisme, la drogue aussi, ça c'est incontestable. Il faut rappeler aussi le suicide du peintre allemand
Wiegels.
Alors, qui était un ami de Picasso, Picasso lui-même qui va décrocher le
pendu. Parce qu'en fait, il s'est pendu après à Wiegels, oui, après avoir largement abusé des drogues. Et on dit aussi que c'est suite à ce suicide qui a beaucoup traumatisé Picasso, parce qu'effectivement, elle est dépend de quelqu'un, donc qui s'est pendu, je ne sais plus, c'était à la porte ou à la fenêtre de son atelier du bateau Lavoir. On dit que c'est suite à ce suicide qui a beaucoup traumatisé Picasso que ce dernier aurait arrêté de prendre des drogues.
Alors c'est vrai que c'est éther, opium, hashish, des cocktails explosifs.
Oui, plus alcool, bien sûr, et mauvais alcool, parce qu'ils n'ont pas les moyens de boire du Grand Bourgogne.
En tout cas, ce peintre allemand, Wiegels, sera enterré au cimetière Saint-Vincent,
à Montmartre.
Avec vue sur les vignes et les pentes bucoliques. D'ailleurs, à ce cimetière sont également enterrés...
Utrio.
Maurice, le fameux Momo.
Le fameux Momo.
Qui lui est mort, je crois, en 55.
En 55, oui.
Et puis il y a un autre, alors c'est le peintre normand, Eugène
Boudin.
Alors,
et d'ailleurs, l'enterrement, Yannick, et cet enterrement d'ailleurs a tourné au carnaval, parce que tous les peintres étaient là, se sont déguisés, se sont grimés, et c'était même plus un enterrement, c'était un carnaval. La bohème avait aussi ses bons côtés.
On a parlé de Picasso, il y a un autre artiste qui apparaît de manière assez magique. Alors déjà, un très très bel homme, c'est celui qu'on appelait le prince de Montparnasse.
Ah, Amedeo Modigliani.
Alors, Picasso, Modigliani, on ne peut pas dire que les deux hommes s'appréciaient énormément.
Ils ne s'aimaient pas, parce que Picasso était un grand jaloux, et Modigliani étant très beau, en plus déclamant des poèmes, enfin bref, Modigliani avait toutes les femmes qu'il voulait, et Picasso était très jaloux, parce qu'en plus Modigliani, hormis les histoires de femmes, ne voulait pas entrer dans la sphère d'influence de Picasso, parce que Picasso avait sa bande, qu'on appelait les Picassiens d'ailleurs, et Modigliani était un solitaire, bon il avait des amis, hein, mais ne voulait pas entrer dans la sphère d'influence de Picasso. Donc il y avait en fait une rivalité entre les deux.
Alors Modigliani, a quand même un certain culot, c'était peut-être aussi un gros bluffeur. Il prétendait descendre de Spinoza et de famille de riches banquiers alors qu'il n'avait pas un flèche avec lui.
Alors en fait, il venait d'une famille donc de Livourne en Italie, de banquiers juifs, mais sauf que quelques années plus tôt, sa famille avait été ruinée. Et donc, il est arrivé quand même à Paris avec quelques sous donnés par sa chère maman, qu'il a dilapidé en quelques semaines. Et c'était la dèche absolue.
Alors, j'ai été particulièrement sensible, et tu le racontes bien dans ton roman, à cette grande amitié fraternelle entre Modigliani et l'affreux. Parce qu'il était très laid.
Soutine. Alors oui, cette amitié est très intéressante parce qu'en fait, c'est la réunion de deux contraires. Modigliani était aussi beau, propre, cultivé, que Soutine était laid, sale. D'ailleurs, on l'appelait le Rembrandt du ghetto. Alors Soutine est arrivé avec rien du tout. Alors l'histoire de Soutine est très intéressante aussi. Il vient d'une famille, d'Europe de l'Est, qui était la Russie impériale à l'époque, d'un shtetl, une famille de ghetto, de juifs très pratiquants. Et il se trouve que dans la loi juive très très orthodoxe, il est interdit de représenter, de peindre le visage humain. Soutine, pour un peintre ou un dessinateur, c'est quand même pas... Voilà. Et donc Soutine le fait, est roué de coups, il s'enfuit à Vilnius, où il fait les beaux-arts quand même, hein, parce que tous ces gens-là arrivent à Paris avec quand même un bagage culturel, enfin ils savent peindre, Et donc il s'enfuit ensuite à Paris, évidemment Paris est vraiment un aimant pour tous les artistes de l'époque, c'est là qu'il faut être. Et il arrive sans rien du tout, il va directement à la ruche. Et, alors oui, ils se lient d'amitié avec Modigliani. Bon, ils ont quand même un grand point commun. Ils aiment boire, tous les deux. Mais je pense que ça va au-delà, bien sûr, cette amitié. Puis ils sont tous les deux quand même des génies. Quand on regarde leur toile, je sais pas vous, Modigliani, bien sûr, mais Soutine, cette rage, ces couleurs, ce mouvement, c'est magique ce qu'il a fait.
Alors c'est le village, l'escalier rouge, les glaïeuls, mais c'est aussi les carcasses de bœufs, par exemple, ou le poulet plumé.
Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote à ce propos-là. Et donc, il avait été acheté au Halles cette carcasse de bœuf. Et puis la carcasse de bœuf, ben, il la peignait un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Il n'y avait pas de frigo, évidemment, à l'époque. Ça s'est mis à puer. Il y a eu des descentes de police qui lui ont expliqué que quand même, s'il piquait ses carcasses avec du formol, il pourrait les conserver.
On a parlé de Lyon, puisqu'il y a des clins d'œil à Lyon. Oui. Tu sais d'ailleurs, alors ça, tu ne l'as pas dit dans ton roman, mais tu sais que Chaïm Soutine, à un certain temps, est venu se réfugier dans un petit village de Lyon, dans la vallée du Serein.
Oui,
est-ce que tu le savais ?
Oui. Et il en est parti en 43. Bon, il était évidemment traqué par la Gestapo.
Alors, il est d'origine juive,
mais
bien
oui,
sûr.
Donc,
alors, il a une faim un peu pitoyable.
Il a une faim atroce. Depuis très longtemps, il souffre de l'estomac, la mauvaise nourriture, le mauvais vin... et donc finit par avoir un ulcère et donc voilà, réfugié pendant la guerre dans Lyon avec sa compagne, sa dernière compagne, Marie-Berthe Orange. Donc il va pas bien et elle refuse qu'il soit soigné sur place, elle veut absolument qu'il soit opéré à Paris. Et malheureusement, il fallait pas faire le voyage. Et donc, il arrive à Paris, il est opéré, mais c'est trop tard. L'ulcère est perforé et il meurt comme ça.
Il meurt donc le 9 août 1943. Alors, l'enterrement a lieu de manière très discrète.
Mais oui, il est juif. Il est traqué par la Gestapo, n'oublions pas. Et donc, on l'enterre au cimetière du Montparnasse, dans la concession de la famille de sa compagne, Orange, parce qu'elle, catholique, on l'enterre sans mettre son nom. Sans rien du tout.
Avec une croix chrétienne.
Picasso assiste à l'enterrement. Max Jacob, portant l'étoile jaune selon la légende.
Cocteau,
et ce n'est qu'après la guerre qu'on grave enfin son nom sur la tombe. Et elle existe toujours, sa tombe. Je vous invite à aller vous recueillir. Elle est toute modeste, mais elle existe toujours, heureusement, au cimetière du Montparnasse.
Revenons au prince de Montparnasse,
Maudit.
Page 267, Maudit était en fait, je cite, un jaloux, un violent, un lâche, égoïste, dépravé, falot. Mon Dieu, t'as rhabillé Modigliani pour l'hiver.
Alors, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est un personnage qui en fait l'a connue, qui s'appelle Faustine, qui est la grand-mère de l'assassin. C'est pas moi qui dis ça, c'est Faustine. Oui, oui, je l'ai habillée pour l'hiver, mais... C'est-à-dire que tous ces gens-là sont devenus des mythes. Aujourd'hui, ce sont des mythes. Et moi, ce qui m'a intéressée, ça a été de me replonger dans leur présent et dans l'anecdotique. Voilà.
Alors, que s'est-il passé?
Alors lui aussi, il a une
jeune étudiante, Simone Thirou. Ils sont pas très convenables non plus.
Non, ils sont pas.
Ils ne respectent pas les femmes.
Non, ils ne respectent pas les femmes. Ça, on peut dire que vraiment, ils ne respectent pas les femmes. Mais bon, en même temps, il est peintre. Vraiment, faut qu'il peigne. Et malheureusement, cette pauvre femme est tombée enceinte. Il a pas voulu de l'enfant. Et non seulement il a pas voulu de l'enfant, mais il a transmis à la pauvre Simone Thirou la tuberculose.
Et Modigliani finit comme un pauvre diable.
Oh, le pauvre, il a une fin tragique.
En ayant connu la gloire.
Non. Comme dit sa Pierre Tombal, il est mort en italien. Je peux pas vous le dire en italien, désolé. Il est mort au moment où il atteignait la gloire. Il a connu qu'une seule exposition de son vivant. C'était en 1917 chez Berthe Veil, qu'on appelait la petite merveille. D'ailleurs, là aussi, il y a une anecdote plus que croustillante. Pauvre Modigliani. Donc c'était l'époque où ils faisaient tous ces nus magnifiques qu'on a tous dans la tête. Et donc l'expo se passe, le vernissage, et la police arrive et décroche toutes les toiles parce qu'elles sont jugées contraires à la morale. Savez-vous pourquoi? Parce
oui.
que les nus avaient
des poils.
Mon Dieu. Et donc oui, le pauvre, il a eu une fin tragique. Il est mort. Oui, comme un chien, il a pris froid. Il est mort de méningite tuberculeuse avec sa dernière compagne. C'est son voisin d'atelier qui l'a trouvé inconscient. Il est mort quelques heures après. Voilà. Et le plus tragique, c'est que sa compagne était enceinte de quasiment 9 mois et que le lendemain de sa mort, elle s'est défenestrée et elle est morte, elle aussi.
Jeanne et Buterne,
fin tragique.
En tout cas,
on aime les fins tragiques, c'est pour ça aussi qu'ils deviennent des mythes. C'est aussi pour ça.
Modigliani repose au cimetière du
Père Lachaise.
Alors, il y a aussi un autre homme que j'aime énormément, alors qui n'est pas vraiment peintre, mais qui est surtout un immense poète. C'est le fameux... alors, j'avais envie de dire Kostropowicz, Guillaume de Kostropowicz.
On peut dire Kointrowiski aussi, comme l'appelaient ses compagnons de tranchée pendant la Première Guerre mondiale.
C'est
Guillaume Apollinaire, bien sûr.
Qui apparaît aussi dans le roman.
Alors lui, j'ai pas dû l'écorcher. J'ai une grande tendresse pour le gros Guillaume qui mange comme 15. Alors, autre anecdote qui va faire rire, j'espère, nos auditeurs. Guillaume Apollinaire adorait manger. Mais bon, en plus, il avait été dans la dèche. Donc, quand il pouvait manger, il s'en donnait à cœur joie. Et il s'exerçait avec son ami De Rhin et autres, parce que De Rhin aussi, au petit jeu suivant. Quand ils allaient au restaurant, ils prenaient toute la carte de toutes les entrées, tous les plats, etc. Et ils recommençaient jusqu'à ce que l'un des deux cale et paye l'addition. Ça s'appelle manger toute la carte.
Très bien. Violette, on marque un nouveau et dernier temps de pause musicale et puis j'aimerais que tu nous lises des passages de propos, de répliques de la fameuse Jacotte. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invitée, c'est Violette Cabezos pour Portrait de groupe avec Parapluie.
There's a place I go. When no one knows me, it's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum.
da da dum da dum 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 da dum 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 da dum dum. Over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum, da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum.
Elle est l'auteure de plusieurs thrillers historiques à succès, tous publiés chez Albin Michel. Je rappellerai La promesse de l'ange, qui d'ailleurs a obtenu le prix des maisons de la presse en 2004, hein, 350 000 exemplaires vendus. La parole perdue en 2011, 55 000 exemplaires vendus. Plus proche de nous, c'était l'an dernier avec Le teinturier de la lune. Et puis en ce mois de septembre, octobre, novembre, Portrait de groupe avec parapluie, toujours chez Albin Michel. Et c'est Violette Cabezos qui est en notre compagnie. Alors, nous avons parlé du personnage de Jacotte, qui était ouvrière, militante d'extrême gauche, et qui a un langage totalement pittoresque. Et Violette, je vais te demander de nous en donner lecture, parce que c'est particulièrement savoureux.
Merci, merci Yannick. Alors, j'introduis juste vaguement, donc Jacotte tenait un bar avec Nastia, et puis il a bien fallu prendre sa retraite. Donc 2 ans auparavant, elle a vendu le bar à un couple, et là, nous sommes donc 2 ans plus tard, elle est invitée, évidemment avec ses 2 copines, à l'inauguration du nouveau bistrot, et voici ce que ça donne. Par le saint prépuce du Kaiser, j'en crois pas mes lampions. Presque 2 piges de travaux, ramdam, artichat torrent, massacre de mon caboulot, pour bricoler ça. J'avoue que des murs noirs, un écran vidéo géant, des arbres en pot et des transats en cuir rouge sang, c'est bizarre dans un bar, concéda Marthe. Bizarre, s'étouffa Jacotte. Ma vieille, t'as une cigogne dans la cheminée ou quoi? C'est pas bizarre, c'est un carnage, une Saint-Barthélemy, un assassinat. Debout au milieu de la rue des 5 Diamants, les 3 amis contemplaient avec stupeur les transformations radicales opérées dans l'ancien café par les nouveaux propriétaires. Ces derniers, un jeune couple venant du monde de la mode, avaient envoyé un carton d'invitation à Jacotte pour l'inauguration de l'établissement, dans lequel se pressait une foule majoritairement féminine. « Ouvrir un 2 novembre, jour des clamsés, c'est déjà loufoque, mais à leurs yeux que la clientèle !» fulmina Jacotte. Des tronches à chichi gratin montées sur spaghetti. Ma parole, elles font carême depuis leur naissance ou elles bêtent à la table qui recule. Et c'est avec ça qu'ils comptent faire leur beurre, les 2 singes. C'est pas du scrofuleux, quand j'y qu'ils vont droit à la banqueroute. Elles sont maigres car il s'agit de mannequins, expliqua Nastia. Et le grand type en robe longue, là, c'est Douglas Kawabatetubo, le célèbre styliste et grand couturier américano-japonais. Jamais entendu dégoiser de cette face de fesses. Il a un blog qui réunit plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde, compléta Nastia. Il a fait la une des journaux quand il a perdu 30 kilos en quelques mois avec un régime révolutionnaire à base d'algues et de plancton marin. C'est peut-être un champion de la diète, intervint Marthe en lissant sa jupe qui la boudinait, mais je maintiens que tout cela est étrange. La butte n'est plus ce qu'elle était, certes, mais de là à devenir le lieu de rendez-vous des stars de la mode. En fait, poursuivit Nastia après un moment d'hésitation, Je crois que vous n'avez pas remarqué le nom de l'établissement, qui éclaire pas mal de choses. Quel blaze ! Questionna Jacotte. Il est inscrit là, regarde. Aqua Simplex. Qu'est-ce que c'est que cette vanne ? Il se croit chez Astérix, les tauliers ? C'est du latin ? Demanda Marthe. En effet, Marfa, répondit Nastia. Et cela signifie tout simplement eau. Jacotte et Marthe observèrent leur ami sans comprendre. Nastia acheva son exégèse. Eh bien, je. Ce soir, ils boivent du champagne car c'est l'ouverture, mais au vu de ce nom et des bouteilles qu'on aperçoit sur les étagères, je dirais qu'il s'agit d'un bar à eau, ce qui expliquerait le caractère, disons, particulier de la clientèle. Interloqués, les deux septuagénaires n'en croyaient pas leurs oreilles. Tu veux dire, interrogea Marthe, que dans ce bistrot de quartier qui existe depuis un siècle, on ne vend plus d'alcool, mais uniquement de la flotte? J'ai laissé mes lunettes à la maison et je suis trop loin pour lire les étiquettes. Mais c'est ce que j'en déduis. Vous savez, certaines bouteilles d'eau sont aussi rares et chères qu'un flacon de vin. C'est snob comme concept, c'est vrai, et ça me fait mal au cœur. Réalisant enfin la situation, Jacotte l'interrompit. Du château la pompe, du pousse-moulin, de l'anisette de barbillon. Ils vont vendre de la rinsure au prix du pitch-gorn et ces grenouillards vont l'acheter alors qu'ils l'ont gratos au robinet. C'est exact, Jacotte, j'en ai peur. Alors ces deux pirates que je croyais dévisser du cigare sont des rapineurs de génie, s'exclama-t-elle. Les rois de la carambouille, les as de la combine. Elle se tut. Sa silhouette osseuse fit quelques pas et elle colla son front à la vitrine du café. Le cerbère en costume noir s'approcha, mal à l'aise. À l'intérieur, quelques quolibets fusèrent contre l'allure vulgaire et démodée de la voyeuse. « Qu'est-ce que tu veux, Tézig ? » s'emporta-t-elle contre la sentinelle. « Que je décore ? Figure-toi que ce troquet, je l'ai tenu pendant 42 piges, presque 43, oui, monsieur, et avant ça, j'ai trimé à l'usine pendant 11 piges, de 14 à 25 ans, ce qui fait en tout, je compte pas mon année de chaume due, 53 piges de turbin. T'en as connu beaucoup, qu'on marnait autant ? Matelés, toutes ces cocodettes qui patouchent dans le Grisby. Tu veux que je t'affranchisse sur leur sort ? Radine-toi ! » Décontenancé, le vigile s'avança. « Je vais te dire, mon gars, la flotte, c'est périlleux. À force de glougouter la liqueur des canards, le cresson va leur pousser au cul. »
Merci beaucoup, Violette Cabessos, pour cette lecture des répliques de Jacotte. À force de glouglouter la liqueur des canards, le cresson va leur pousser au cul.
C'est Je peux dire ça à des bourguignons, hein.
Absolument. Merci Violette d'avoir passé cette heure
sur
les banquettes de Wagon Livre. On rappelle donc chaudement Portrait de groupe avec Parapluie sous ta plume. C'est aux éditions Albin Michel. Je rappelle que cette émission a été enregistrée pas très loin de la cour d'honneur
du château. Au pays du vin où il n'y a pas de liqueur des canards, heureusement.
Pas de risque de cresson au cul pour Violette Cabessos. Excellente soirée à toutes et à tous. Bisous Violette,
bisous,
merci
et à bientôt.
Bonne continuation
beaucoup,
dans
Yannick.
Ton écriture et je recommande vraiment avec bonheur et délice ce portrait de groupe avec Parapluie. Merci de nous avoir suivis sur Radion. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Au revoir à toutes et à tous.